Aujourd'hui, on va parler de Salim Laibi, le fameux libre-penseur, mais aussi de conspirationnisme et du mystère qui entoure la mort de la princesse Diana Letsko. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On commence par le commencement. Sur Instagram, il y a quelques jours, lorsque j'ai dit que le libre-penseur... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le libre-penseur, c'est un certain Salim Laibi qui... le jour exerce le métier de chirurgien dentiste à Marseille et la nuit anime un site qui nous gratifie d'une actualité dissidente, rebelle, contestataire, etc. Donc, lorsque j'ai dit que ce fameux libre penseur, c'est un conspirationniste qui finalement est du même acabit que un Alain Soral, un Youssef Hindi et compagnie, j'ai eu quelques commentaires étonnés. Quelques-uns parmi vous m'ont écrit des messages du type « je pensais qu'il était quand même différent de Soral, qu'on ne pouvait pas le mettre dans la même case ». Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors oui, évidemment, je ne dis pas que Soral et libre-penseurs sont des copies homogènes, qu'ils ont les mêmes positions surtout, qui sont des clones. Alors, il y a certainement des désaccords entre eux sur certains sujets, et même peut-être des sujets importants, mais ça ne m'empêche pas de les classer dans une même case, et ce principalement pour trois raisons. Premièrement, Salim Laibi, il faut le reconnaître, ça a été un compagnon de route de Soral, et il a été pendant quelques années tout de même. Donc on ne peut pas nier la proximité idéologique, intellectuelle, si on peut dire, entre ces deux personnages. Par exemple, Soral a carrément accordé son soutien à Salim Laibi lorsque celui-ci s'est présenté pour les législatives de 2012, je crois. Alain Soral et Salim Laibi ont participé ensemble, et même co-animé, toute une série de meetings, de happenings, de conférences, notamment avec le personnage de Dieudo. Et puisqu'on parle de Dieudo, rappelons que Salim Laibi a quand même reçu de ce dieudonné la quenelle d'or. Donc Dieudo qui, lui-même, rappelons-le, était... on peut dire quasi le bras droit humoristique de Soral, avant de devenir son associé, puis finalement son adversaire, pour des raisons principalement liées au flouze, si j'ai bien suivi les histoires. Bref, Laibi, il est au milieu de ces personnages, c'est un intime de ce milieu, c'était un intime de ce milieu, parce que ce n'est plus le cas. Ce qui m'amène à la deuxième raison pour laquelle je range Laibi aux côtés de Soral et compagnie, parce que, admettons, ils se sont disputés, mais c'est souvent entre les personnalités les plus proches idéologiquement que les luttes sont les plus féroces. Ça me rappelle en fait cette blague qui circulait dans les milieux de la gauche étudiante et qui disait en gros si tu enfermes trois trotskistes dans une salle pour qu'ils se mettent d'accord, ils en sortent avec cinq scissions. Donc pour le milieu conspirationniste, c'est encore plus le cas parce que ce milieu c'est un vrai panier de crabes. Ils ne se supportent pas, ils ont des égos gros comme des maisons. Et en fait, ils peuvent même pas concevoir qu'on soit pas d'accord avec eux, qu'on égratigne leur image de quelque façon que ce soit. Ils finissent presque toujours par se détester à la vie, à la mort. Ça finit souvent en passe d'armes, vous connaissez ces histoires. C'est des passes d'armes pathétiques à coups de vidéos incendiaires, d'insultes, de campagnes, de trolling, et carrément à coups de procès judiciaires d'ailleurs. Parce que dans ce petit triangle amoureux, la Dieudo sera Laibi. Je crois que chacun a déjà collé un procès à l'autre, ce qui en dit quand même beaucoup sur le niveau. Donc ils se sont brouillés, mais ça reste en gros le même Bloubi Boulga complotiste indigeste. Et finalement, franchement, le fait qu'ils se connaissent ou pas, qu'ils se détestent ou pas, ça importe peu. Ce qui m'amène à la troisième raison pour laquelle je classe le libre penseur et Soral dans la même case, qui est quoi ? Qui est le contenu de leur discours, tout simplement. J'ai pas besoin de retracer l'historique de leurs amours et de leurs trahisons, j'ai juste à lire et écouter le libre penseur. On risque d'ailleurs d'écorcher mes yeux et d'abîmer mes oreilles. Mais je prends le risque. En tout cas, le contenu de Libre Penseur, c'est la même logorée de conspirationnisme bête et méchant qu'on retrouve sur Égalité et Réconciliation. Le site de Soral, le site dans lequel vous trouverez la prose d'Alain Soral, celle de Youssef Hindi et d'autres du même acabit. Mais donc, la question que vous êtes en droit de me poser, c'est quoi ce conspirationnisme bête et méchant ? Comment le définir ? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On attaque donc en fait la deuxième partie de cet épisode. Et ce que je vais vous dire est important, mais ne vous inquiétez pas, je ferai un petit récap en fin d'épisode. Donc, je commence par préciser que mon mémoire de fin d'études en sciences politiques, portait justement sur le discours conspirationniste. Plus précisément, c'était le discours conspirationniste dans le cadre des conflits chiites sunnites au Moyen-Orient. Donc, vous imaginez bien que pour ce mémoire, j'ai dû mener quelques recherches pour comprendre et tenter de définir le conspirationnisme. Là où je vais vous décevoir peut-être un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur le sujet. Et en fait, ce mot peut signifier des choses différentes. Par ailleurs, on pourrait dire que le conspirationnisme n'est pas un fait brut, n'est pas un phénomène identifié, monolithique, c'est c'est un genre de spectre. Ça peut aller de ceux qui pensent qu'une situation particulière est louche, voilà, une espèce de petit conspirationnisme soft, à ceux qui voient du complot absolument partout. Et donc, ce spectre rend difficile la définition simple du conspirationnisme. Mais je suis quand même parvenu à identifier certains points communs qu'on retrouve très souvent dans les approches conspirationnistes. Je vais vous présenter un trait en particulier, ce trait que je trouve véritablement fascinant. On peut l'illustrer avec cette question. Qu'est-il arrivé à Lady Di? Vous savez, la princesse Diana. Vous savez probablement que Diana était l'épouse de l'héritier de la couronne britannique, hein, qui est aujourd'hui le roi. Comment s'appelle-t-il? Charles III, si je ne m'abuse. Mais elle était malheureuse. Hein. Elle est malheureuse en couple et a fini par divorcer dans un contexte qui était très 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 tendu, avec notamment la reine Elisabeth II, c'est ça. Cet contexte de tension a beaucoup écorné l'image de la monarchie britannique. Et donc quelques années sont passées, elle a divorcé, puis ensuite quelques années ont passé, et en 97, elle meurt dans un accident de voiture à Paris, avec son amant, qui était un richissime homme d'affaires arabe, dans un accident, donc dans le tunnel du pont de l'Alma. Les conclusions de l'enquête sont les suivantes. La voiture était poursuivie par des paparazzi qui passaient leur temps à harceler Lady Di à la recherche du moindre scoop, et le chauffeur roulait si vite pour leur échapper que ça a fini en un tragique accident mortel. Mais est-ce la vérité? Vous vous imaginez bien que sur un sujet aussi épineux, très tôt ont émergé des doutes face à la version officielle. Pourquoi je vous raconte tout ça? Quel est le lien avec le libre penseur? Me demandez-vous. J'y arrive, ne vous inquiétez pas. Donc je reviens à mon mémoire. Pendant mes recherches, je suis tombé sur un article scientifique très intéressant, écrit par des psychologues britanniques qui ont fait une expérience avec des participants volontaires venus de tous horizons. Donc dans cette étude britannique, on soumettait aux participants une liste d'affirmations sur plein de sujets différents. Et les participants devaient attribuer pour chacune de ces affirmations un score de vraisemblance. Mettons l'affirmation 1, j'en sais rien, moi, les États-Unis ont balancé la bombe de Nagasaki pour commettre un génocide, j'invente, hein. 0 à 10, 0 j'y crois pas du tout, 10 j'y crois tout à fait, 5 je sais pas trop, etc. Donc quelque part sur ce spectre, il fallait noter un score de vraisemblance. Parmi ces affirmations, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de Lady Di depuis tout à l'heure, parmi ces affirmations, il en avait une qui avançait que la mort de Diana, c'était un complot des autorités. Derrière cette affirmation, voilà, on comprend que l'idée c'est quoi? C'est de dire que la reine d'Angleterre, notamment, voulait se débarrasser de cette ex-princesse qui donnait une mauvaise image de la couronne et qui, en plus, s'acoquinait avec un arabe. Mais, et c'est là toute la subtilité de l'expérience. Ailleurs dans cette liste d'affirmations, il y en avait une autre qui concernait également la mort de Lady Di. Cette affirmation avançait que, en réalité, Lady Di avait mis en scène sa propre mort. Pourquoi aura-t-elle fait une chose pareille? Afin de fuir incognito, pour vivre sa vie comme elle l'entendait, loin de ses ennemis, loin de la presse, etc. Mais ce qui est frappant à l'analyse des résultats de cette expérience, c'est que, au plus un participant avait tendance à affecter à la première affirmation un score de vraisemblance élevé, au plus il en accordait un pour la deuxième affirmation également. Est-ce que vous me suivez? Vous avez compris? Je réexplique. Au plus une personne a tendance à croire que l'État britannique a tué Lady Di, au plus cette même personne a également tendance à croire que Lady Di s'est cachée quelque part et vit sa best life. Et pourtant, il s'agit là d'affirmations tout à fait contradictoires. Hein. Lady Di, à moins qu'elle soit une émanation du chat de Schrödinger, ne peut pas être à la fois morte et vivante. Comment peut-on accorder du crédit à deux théories diamétralement opposées? La raison est assez simple en fait. Ces deux théories que tout oppose, en fait, ont quand même un point commun. Ces deux théories contredisent la version officielle. Et les auteurs de l'étude expliquent dans leur article que les partisans des théories conspirationnistes paraissent au premier abord dénués de logique, irrationnels, mais qu'en fait c'est pas si simple. Quelque part dans cette attitude, il y a une rationalité. Une rationalité déroutante, mais une rationalité quand même. En fait, la rationalité des conspirationnistes repose sur un trait qu'ils partagent presque tous à divers degrés, le rejet de la version officielle, le rejet du discours mainstream. Lady Di a été tuée, j'accorde du crédit à cette thèse parce qu'elle va à l'encontre du discours des autorités. Lady Di est encore vivante, bah, j'accorde du crédit à cette thèse aussi parce qu'elle s'oppose aux thèses officiel. Voilà qui me permet enfin d'expliquer en quoi le libre penseur, c'est en fait un conspirationniste obtus. Il partage complètement ce trait que je viens de décrire. allez sur son site, hein, si vous n'avez rien à faire d'autre et que vous n'êtes pas sujet à la migraine. C'est quoi son site? C'est une suite d'articles, de vidéos, de dépêches qui n'ont aucune ligne idéologique vraiment cohérente, si ce n'est qu'à chaque fois, ça s'oppose à la version officielle, même lorsque ces articles se contredisent. Est-ce que vous voulez un exemple? Je vais vous en donner un qui est éloquent et qui, d'ailleurs, je me permets de le dire, me donne la nausée tellement c'est affligeant et qui fait que je considère le libre penseur comme un pseudo idéologue de la pire espèce. En 2013, il y a une dizaine d'années, une attaque chimique frappe la Rota. C'est une région fertile qui entoure Damas, la capitale de la Syrie. Des centaines de personnes, certains disent des milliers de personnes, dont des femmes et des enfants, ont péri dans des souffrances invraisemblables. Je vous passe les détails, mais une attaque chimique type chlore, ça vous fait étouffer dans votre propre morve, quelque part. C'est extrêmement douloureux et très traumatisant. Eh bien, quelques semaines plus tard, le Libre Penseur partage une interview de qui? De la mère Agnès Delacroix, qui est une religieuse franco-libanaise, complètement à la solde du régime. Et cette mère Agnès Delacroix, qu'est-ce qu'elle dit dans cette interview? Que les photos des enfants tués sont truqués. En fait, ce sont des enfants qu'on a anesthésiés. On leur a donné quelques médocs. En fait, ils dorment profondément. Ils ne sont pas morts. On a fait cela pour faire croire qu'ils sont morts. D'ailleurs, ajoute-t-elle, il semblerait qu'il n'y ait eu aucune attaque. Elle nous dit que c'est juste une propagande des rebelles. Elle était dans la région la veille, le lendemain. Elle a rien vu de louche. En vérité, le lieu est calme et rien ne semble s'être passé. Imaginez l'indécence de ces déclarations. Alors, ça vous rappelle pas un autre théâtre de guerre dans lequel des propagandistes de l'armée prétendent que les photos d'enfants morts sont en fait des poupées ou des enfants acteurs? Ça rappelle évidemment la propagande sioniste, qui est aussi dégoûtante que la propagande du régime Assad. C'était d'ailleurs un exemple que je donnais, ce genre de parallèle, dans le courrier du Critérium que j'ai envoyé hier. Mais ce qui est troublant, et en fait qui fait le lien avec le trait du conspirationnisme mis en évidence dans l'étude dont j'ai parlé juste avant, c'est que quelques temps plus tard, le même libre penseur, sur le même site, diffuse des soi-disant enquêtes prouvant quoi? Que l'attaque chimique de la Rota qui a tué des centaines, voire des milliers de civils, était en fait une attaque des rebelles. Oui, les rebelles syriens se sont tirés dessus, tuant leurs propres enfants, leurs propres mères, leurs propres épouses, pour y gagner, on imagine, quelques points dans les chaumières occidentales. Ça paraît absurde, c'est complètement absurde cette théorie. D'ailleurs, ça rappelle aussi la propagande sioniste, quand elle nie des bombardements de l'armée israélienne pour les attribuer au Hamas, comme si le Hamas allait tirer sur sa propre population. Donc vous noterez surtout à quel point on nage dans une confusion totale. Dans la première thèse, il n'y a pas d'attaque chimique, c'est des inventions. Dans la deuxième thèse, les attaques chimiques meurtrières ont été fomentées par les rebelles eux-mêmes. Est-ce rationnel? Non, pas vraiment. Est-ce logique? Absolument pas. Mais peu importe, parce que dans la shorba complotiste de Salim Leiby, ce qui compte, c'est que ça attaque la version officielle. Au diable la vérité, au diable la cohérence, qu'il s'agisse de géopolitique, de santé publique, de finances, de que sais-je, c'est la même méthode bancale qu'il emploie. Voilà pourquoi je considère que Soral ou Salim Leiby, c'est un peu la même soupe indigeste, même si, on peut dire qu'elle est assaisonnée un peu différemment. D'ailleurs, si vous allez sur le site de Soral, Égalité et réconciliation, c'est la même logique confuse, même s'il faut accorder à Soral une ligne idéologique un peu plus claire que celle de Leiby. Cette ligne idéologique égalité et réconciliation, là, de réconciliation entre cathos et musulmans, contre les judéo-protestants, etc. C'est une ligne idéologique bidon, mais elle existe. Alors que Salim Leiby, franchement, je vous mets au défi de trouver véritablement un manifeste, une idée un petit peu conséquence. Donc finalement, on est en droit de se poser la question, c'est quoi la ligne idéologique de Leiby? C'est quoi le fond de sa pensée? En vérité, je pense que la réponse est dans son pseudonyme, le libre penseur. Parce que libre ici, c'est un peu dans le sens de libérer toute contrainte. Je pense librement, donc je pense comme je veux. Je n'ai pas de méthode claire, j'ai pas de ligne identifiée, j'ai pas de reconnaissance par les pairs, j'ai pas de manifeste clair, je n'ai pas de direction établie. Salim Leiby, en fait, si on devait le résumer, c'est l'anarchisme épistémologique. Une épistémologie du doute radical. Un doute facile, commode, qui dispense de réfléchir, qui dispense de nuancer, de comprendre. Un discours qui brosse son public dans le sens du poil. Parce qu'il y aura toujours un public qui aime qu'on dise que tous c'est les sionistes ou tous c'est les satanistes. Un public qui achètera ses mugs avec son visage imprimé dessus accompagné d'un slogan d'adolescent attardé. Cheikh, c'est le slogan de l'AIBI, c'est un petit peu peut-être toute la substance de sa matrice intellectuelle. Comme le disait le mathématicien Henri Poincaré, douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes, qui l'une comme l'autre nous dispensent de réfléchir. Donc, si je devais vous conseiller quelque chose, c'est d'aller plutôt vers des personnes qui privilégient la cohérence et la complexité plutôt que ceux qui se complaisent dans l'incohérence et le simplisme. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour de la question, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans cet épisode ? D'abord que le libre penseur, c'est un peu la même soupe que Soral, parce que bah, il l'a fréquenté et accompagné, mais surtout parce que le contenu même de son discours, c'est la même charmola conspirationniste. Ensuite, on a vu un trait que partagent beaucoup de conspirationnistes, c'est quoi ? C'est le fait d'avaler tout ce qui passe, même si ça se contredit, tant pis, tant que ça s'oppose au discours officiel, je prends. Et enfin, que le libre penseur, c'est quoi ? C'est en fait un personnage sans boussole, si ce n'est une méthode de l'absence de méthode, hein, qui fait de sa liberté de penser une liberté de ne pas avoir de compte à rendre à son public à propos de la cohérence la plus élémentaire qu'il faudrait avoir dans un discours. Voilà, voilà, c'était les mots de la conclusion. J'espère que cet épisode vous a plu et vous sera utile, bi'idhnillah. Je prépare de toute façon, et je vous l'annonce un petit peu une petite exclue, dans les prochains mois, va venir un cours en ligne approfondi sur le conspirationnisme et les fake news. Et si ce sujet vous intéresse, pardon, abonnez-vous à un courrier du Critérium, la newsletter hebdomadaire dans laquelle j'évoque l'esprit critique avec un regard islamique et notamment la question du discours conspirationniste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.